Troisième partie, le fantôme noir. Premier chapitre, le grimoire de Ruggieri. Sur la route de Mantes à Dreux, à quelques kilomètres de cette dernière ville, le château de Courteuil, qui datait de la Renaissance, dressait sa magnifique silhouette. Le baron Papillon, qui s'en était rendu acquéreur quelques années auparavant, n'en avait pas fait seulement restaurer l'extérieur, il avait aussi voulu que l'intérieur fût meublé comme il l'était autrefois. Et nous devons dire qu'il avait presque atteint son but. Après avoir franchi une superbe grille monumentale en fer forgé et traversé une vaste cour d'honneur, on pénétrait dans la salle des gardes ornée de statues et d'armures, et au fond de laquelle s'amorçait un très bel escalier en pierre à double évolution, qui aboutissait au premier étage à un large vestibule dont les murs étaient tendus de tapisseries de haute lisse. Ce vestibule desservait un très beau salon Louis XV aux boiseries délicatement ouvragées et qui avait conservé leurs ors aux meubles rares et aux tableaux de maître. Le parquet était garni d'un splendide et unique tapis de la Savonnerie. Cette pièce vraiment admirable communiquait directement avec une immense bibliothèque dont les quatre faces étaient garnies de rayons où s'alignaient plusieurs milliers de volumes dont certains eussent été dignes de figurer à l'Arsenal, à Chantilly ou à la Mazarine. Ce jour-là, dans cette salle, l'homme chargé par le baron Papillon de surveiller toutes ses richesses était assis devant une table Louis XIII sur laquelle reposait un colis de forme rectangulaire et qui enveloppait une toile d'emballage marquée de plusieurs cachets de cire rouge. Ce personnage n'était autre que le bossu mystérieux, l'un des complices de Belphégor. L'autre comparse, c'est-à-dire l'homme à la salopette, se tenait debout près du bureau, sa casquette à la main. En face d'eux, un concierge en livrée écoutait, en une attitude respectueuse, les ordres du bossu. Celui-ci lui disait, sur un ton qui révélait immédiatement la place importante qu'il occupait dans la maison, « D'un accident survenu au mécanisme secret des oubliettes, monsieur le baron a donné l'ordre d'interdire toute visite au château. »« Bien, monsieur le secrétaire, » répondait le portier en s'inclinant. Désignant à celui-ci l'homme à la salopette, le bossu poursuivit « Monsieur est un ouvrier spécialiste que j'ai amené de Paris et qui doit exécuter devant moi les réparations. » Puis avec force, il scanda « Vous veillerez à ce que personne ne nous dérange pendant l'exécution des travaux. » Et d'un geste impératif, il congédia le concierge qui s'empressa de déguerpir. Le bossu et l'homme à la salopette restèrent seuls en présence. Un instant, ils se turent. L'homme à la salopette, qui ne semblait doué ni du même cran ni de la même autorité que son interlocuteur, rompit le premier le silence. « Alors, fit-il, monsieur Luchner, vous croyez que nous ne risquons rien ?»« Là, je suis sûr, » répliqua le bossu avec l'apparence et l'accent de la plus parfaite tranquillité. Et il ajouta, « Les papillons ne viennent jamais ici qu'au mois de septembre. » « Mais les domestiques, » objectait l'autre. « J'en réponds, » scanda le bossu d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Et s'emparant d'un trousseau de clés déposé sur la table, il fit signe à son acolyte de prendre le colis. L'homme à la salopette le chargea sur son dos et emboîta le pas au bossu. Tous deux, sortant de la bibliothèque, traversèrent la salle à manger et pénétrèrent dans le salon. Monsieur Luchner se dirigea vers une petite porte en tapisserie. Tandis qu'il choisissait l'une des clés à son trousseau, l'homme à la salopette déposa son fardeau sur un meuble, puis promena son regard autour de lui, détaillant avec admiration et convoitise les merveilles accumulées autour de lui. Après l'avoir considéré pendant quelques secondes, le bossu fit avec un sourire plein d'ironie « Vous vous dites qu'il y aura ici à beaucoup à faire !» Et comment? J'y avais bien songé, déclarait le secrétaire du collectionneur. Mais c'est malheureusement impossible. Pourquoi? Parce que ces objets d'art, ces tableaux, ces meubles sont catalogués et connus de tous les antiquaires. Et on se ferait immédiatement pincer. Bon, alors, je n'insiste pas. Le bossu introduisit sa clé dans la serrure de la petite porte. L'homme à la salopette rechargea le colis sur ses épaules. Le bossu poussa la porte et, après l'avoir refermée derrière eux, il fit fonctionner un commutateur. Une lampe électrique s'alluma, éclairant un petit escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans le sol. Tous deux descendirent les marches et atteignirent un couloir qui se terminait par une baie grillée. Le bossu, désignant la baie, dit à son compagnon: Ah, c'est les anciennes prisons du château. Il chercha une grosse clé dans son trousseau et la plaça dans l'énorme serrure qui fermait la grille et scella à sa pression. Alors il fit fonctionner un nouveau commutateur. Les deux ailes de Belphégor se trouvaient dans une vallée voûtée qu'éclairaient plusieurs lampes à réflecteurs attachés au mur. Au fond se dressait une sorte de cheminée d'aspect bizarre. À l'une des parois était fixé un tableau électrique muni de plusieurs manomètres. Après avoir fait signe à l'homme à la salopette de se débarrasser de son colis, que celui-ci plaça sur une table en bois massif, le bossu reprit, en lui désignant la cheminée: C'est un fourneau à haute tension que j'ai installé moi-même. Alimenté par l'usine électrique du château, il nous fournira l'énergie nécessaire pour fondre l'or et les bijoux des Valois. Oh, décidément, monsieur Luchner, vous savez tout. Désignant le colis, le bossu reprit: Ben, nous allons laisser ici le coffre, ainsi qu'il nous l'a été ordonné. Dès que Belphégor nous aura rejoints, nous commencerons la fonte des pièces et des bijoux qu'il s'agit de transformer en lingots d'or. Maintenant, rentrons vite à Paris, car nous avons un compte à régler avec M. Chandecoq. Les deux bandits regagnèrent par le même chemin la cour du château, où stationnait la voiturette du bossu. Le concierge s'empressa d'ouvrir la portière. Tandis que son compagnon montait dans l'auto, le secrétaire du baron Papillon lança au portier: Nous allons chercher une pièce qui nous manque et nous reviendrons demain. Et il ajouta, tout en lui glissant un billet dans la main: Allez, voilà pour boire ma santé. Il s'installa au volant. La voiture démarra et le concierge de Courteuil, ravi de l'aubaine, s'écria: Quel brave homme que ce monsieur Luchner! À la même heure, Ménardier était en grande conférence avec monsieur Ferval, directeur de la police judiciaire, lorsqu'un garçon de bureau vint annoncer que monsieur Chantecoq était là. Il est exact au rendez-vous, constata monsieur Ferval. Il ne se doute pas de ce que je vais lui apprendre, scanda l'inspecteur. Faites entrer, ordonnait le directeur de la police judiciaire. Chantecler Coq apparut, accompagné de Jacques Bellegarde, ou plutôt de Cantarelli. À la vue de ce personnage, sous lequel l'œil le plus malin et le mieux exercé eût été incapable de reconnaître le brillant rédacteur du Petit Parisien, M. Ferval et Ménardier esquissèrent un léger mouvement de surprise. Immédiatement, Chantecoq attaquait. Mon cher Ferval, je te présente le commandeur Cantarelli, premier numismate du roi Victor Emmanuel III et directeur du musée de Florence où a été commis le vol dont. Si tu le sais, je suis chargé par le gouvernement italien de rechercher l'auteur. Le directeur de la police judiciaire salua courtoisement le soi-disant numismate, qui lui répondit avec un empressement bien italien. Chantecoq, qui s'était approché de Ferval, fit en lui serrant la main: Le commandeur s'intéresse vivement à cette affaire du Louvre, car il est convaincu que le bandit de Florence n'est autre que notre fantôme. Oh, je crois pouvoir affirmer, dès à présent, intervenait Ménardier, que monsieur le commandeur se trompe. D'une voix un peu pointue, Bellegarde Cantarelli zézayait. Ce n'est de bonne qu'être convaincu. Ferval et Ménardier changèrent un rapide regard, dont Chantecoq devina la signification, car il affirma aussitôt. Oh, vous pouvez parler devant M. Cantarelli, je réponds de sa discrétion autant que de la mienne. Ferval reprenait. Ben, en ce cas, vous allez tout savoir. Grâce à l'habileté de l'inspecteur Ménardier, le fantôme du Louvre est enfin découvert et son arrestation est imminente. Peut-on savoir son nom? Interrogeait Chantecoq. Oui, répliqua le directeur, mais je te demande, ainsi qu'à M. Cantarelli, le secret le plus absolu. Le grand détective et son ami s'y engagèrent d'un geste tellement sincère et spontané que l'esprit le plus sceptique ne se fut pas reconnu le droit de mettre en doute leurs paroles. Alors Ferval révéla. C'est Jacques Bellegarde. Le reporter du Petit Parisien ? S'écria le grand détective en simulant la plus grande surprise. Quant au principal intéressé, il demeura impassible. On eût juré que l'on prononçait pour la première fois son nom devant lui. « Eh oui !» soulignait Ménardier en affectant un petit air de supériorité. Ferval poursuivait. On a trouvé chez lui certains documents qui ne laissent subsister aucun doute sur sa culpabilité. Chantecoq feignit de nouveau un vif étonnement. Le faux Cantarelli, d'un air très intéressé, continuait à écouter le directeur de la police judiciaire, qui, tout en prenant différents objets étalés sur son bureau, poursuivait. « Mais voici d'abord quelques écus d'or qui, ainsi que vous le voyez, sont frappés au coin du roi Henri III. » Chantecoq en prit un, l'examina, et tout en le passant à son voisin, il fit « Oh, il se peut que Bellegarde ait eu l'intention de commencer une collection. »« Oh, je ne le pense pas, » ponctuait M. Ferval. « Ce sont des pièces fort belles. »« Fort belles !» déclarait le pseudo-numismate en retournant l'écu dans ses mains. « Ce n'est pas tout, » reprenait le directeur. Voici une ferrure de coffre qui est, mon cher Chantecoq, ainsi que tu ne peux manquer de le reconnaître, absolument semblable à celle que tu as trouvée toi-même au Louvre. » Il passa la ferrure au grand détective, qui, tout en la regardant avec attention, murmura « c'est exact ». Saisissant le manuscrit que Ménardier avait trouvé tout au fond de la bibliothèque du journaliste, Ferval reprit en le présentant au célèbre limier. « Enfin, voici un grimoire dont la lecture achève de projeter une lumière éclatante sur cette troublante histoire. » Avec calme, Chantecoq reprenait. « Monsieur Cantarelli, qui est expert dans l'art de déchiffrer les manuscrits anciens, sera sans doute très heureux de prendre connaissance de celui-ci. » Jacques s'empressa de déclarer. « Certainement, je suis très désireux de contempler le prêt à ce document. » Le directeur, se levant, invita fort courtoisement le commandeur à s'installer à sa place, et tandis que celui-ci commençait à feuilleter le grimoire, Ménardier, qui pendant toute cette scène n'avait pas cessé de braquer sur Chantecoq une paire d'yeux pétillants d'ironie, s'approcha de son chef et lui dit « Monsieur le directeur, je vous demande la permission de me retirer, car il faut que je me mette sans tarder à la poursuite du sieur Bellegarde. »« C'est cela, mon ami, filez vite !» Ménardier salua de la tête Cantarelli, qui, absorbé dans sa lecture, ne parut pas s'apercevoir de cette marque de politesse. Puis il tendit la main à Chantecoq, qui lui dit d'un air légèrement gouailleur, Bonne chance, mon cher confrère. Ménardier gagna la porte, accompagné jusqu'au seuil par Ferval, qui lui dit à l'oreille quelques mots, pendant lesquels Chantecoq et Bellegarde échangèrent un furtif sourire. Revenant vers eux, le directeur de la police judiciaire s'écriait « N'est-ce pas que c'est concluant ?» Une sonnerie de téléphone l'arrêta. Ferval décrocha le récepteur, écouta. « Bon, je viens tout de suite, monsieur le préfet » lança-t-il. Et tout en raccrochant l'appareil, il ajouta « Le grand patron me demande. » Chantecoq fit aussitôt « Ah, nous allons nous retirer !»« Oh, pas du tout !» protesta cordialement le haut fonctionnaire. « Ici, mon cher ami, tu es chez toi. D'ailleurs, je reviens dans quelques instants. » Et il sortit, après avoir adressé un amical salut de la main à ses deux hôtes. Le grand détective attendit qu'il se fût éloigné. Alors, s'emparant d'une chaise, il s'installa à côté de Bellegarde. « Tout va bien, martera-t-il, et maintenant travaillons. » Jacques lui passa le grimoire, dont la couverture enluminée représentait les attributs des astrologues et des magiciens et portait en tête, tracés en caractère gothique, « Mémoire secret de Cosme Ruggieri, astrologue de Sa Majesté la Reine Catherine de Médicis. » Chantecoq feuilleta l'ouvrage qui était écrit en français de l'époque. Il s'arrêta à cette phrase que nous traduisons immédiatement en français de nos jours. Peu de temps avant les journées des barricades, tandis que Sa Majesté Henri III assistait à un grand bal dans son palais du Louvre, la reine Catherine me fit mander près d'elle. Ma puissante et vénérable protectrice se trouvait dans son oratoire. Elle était assise sur une cathèdre près d'une table où était déposé un coffre en cuir repoussé, aux ferrures d'angles finement ciselées et dont le couvercle portait au centre les armes des Valois. Après m'être incliné devant elle, j'attendais qu'elle daignât m'adresser la parole. Pendant un long instant, elle garda le silence. Enfin, d'une voix grave, elle attaqua. Pendant qu'il danse là-haut, le peuple révolté contre l'autorité des Valois acclame notre implacable ennemi, le duc de Guise. Il ne faut pas nous illusionner. Ce maudit balafré qui veut ravir à mon fils la couronne de ses aïeux a su acheter les uns et fanatiser les autres. Avant qu'il soit tout à fait le maître, et si nous ne voulons pas tomber entre ses mains, le roi et moi, il faut que nous quittions secrètement Paris, et cela dans le plus bref délai. » Et tout en me désignant le coffre déposé près d'elle, elle ajouta « Voici le trésor des Valois. Avant de partir, je veux le mettre en sûreté. » La reine souleva le couvercle. Le coffre contenait, avec une certaine quantité d'écus d'or, de précieux joyaux, parmi lesquels je reconnus le diadème que portait Sa Majesté le jour du sacre de son époux Henri II. Lorsque j'eus admiré ces richesses, Sa Majesté referma le couvercle et fit jouer le ressort secret qui commandait les trois serrures dont il était pourvu. Puis elle ordonna « Suivez-moi !» Je chargeai le coffre sur mes épaules qui plièrent sous le poids. Catherine s'empara d'un flambeau et ouvrit une petite porte qui donnait sur un couloir obscur. Je m'y engouffrai à sa suite. Quelques instants après, nous pénétrions dans la salle dite de Charles V, et je déposai mon lourd et précieux fardeau dans une cachette qui avait été préparée sous une dalle et qu'un mécanisme ingénieux rendait invisible. Interrompant sa lecture, Chantecoq dit à Bellegarde, qui, ainsi que lui, avait lu avec un intérêt palpitant ces lignes révélatrices, « Mais Ferval avait raison !» « Ce document n'est plus concluant. » « En effet, » appuya le journaliste. « Continuons, » dit le détective, qui enchaîna aussitôt sur ces lignes. Quelques jours après, le Louvre était envahi par les partisans du duc de Guise. Je réussis à m'enfuir par un passage souterrain, partant du grand palier dont l'entrée précède les appartements privés du roi Henri III et qui aboutit derrière le maître-autel de Saint-Germain-l'Auxerrois. Je restai caché plusieurs heures dans cette église et la nuit venue... Inutile d'aller plus loin, décidait Chantecoq, nous sommes fixés. Belphégor aura mis la main sur ce grimoire, qui, après lui avoir révélé l'existence du trésor des Valois, lui aura donné le moyen de pénétrer dans le Louvre et d'en sortir par ce souterrain dont, malgré l'avis des historiens et des archéologues, j'avais soupçonné l'existence, mais dont je n'ai pas été assez habile pour découvrir l'entrée. Et le reporter s'écriait « Et Belphégor, afin d'augmenter les charges qu'il a déjà fait peser sur moi, aura glissé ou fait glisser chez moi ce document par un de ses complices. » « C'est clair comme l'eau de roche, » ponctuait le grand limier. « Mais l'important est de savoir où et comment notre ennemi s'est procuré ce manuscrit. » Chantecoq, qui s'était emparé du grimoire, eut tout à coup un furtif sourire. Il venait de découvrir que la première feuille du parchemin qui devait en réalité former ce que l'on appelle la page de garde adhérait à la couverture. S'armant de sa loupe qui ne le quittait jamais, il regarda pendant quelques instants le feuillet sous lequel, tout en haut, il crut apercevoir une sorte d'étiquette sur laquelle se dessinaient vaguement des caractères qu'il lui était d'ailleurs impossible de vérifier. « Tiens, tiens !» fit-il d'un air satisfait. Et s'emparant d'une éponge humide qui se trouvait au fond d'un récipient en porcelaine blanche, placé sur le bureau du directeur de la police judiciaire et devait servir à ce dernier à coller des timbres ou des enveloppes, il en humecta légèrement le haut de la page et, saisissant un coupe-papier, il en introduisit délicatement la pointe entre la couverture et le parchemin qu'il souleva lentement, avec de grandes précautions et sans provoquer la moindre déchirure. Un cri de triomphe lui échappa. L'étiquette, dont il n'avait jusqu'alors aperçu que la forme, n'était autre qu'un ex libris, c'est-à-dire une inscription imprimée qui indique le nom du possesseur d'un livre. Et ce nom, tracé en lettres dorées, était celui du baron Papillon. « Regardez !» fit le détective. Le reporter, stupéfait, s'écria « Le baron Papillon, mais je le connais !»« Moi aussi !» appuyait Chantecoq. « Papillon, qui est un collectionneur ou tout au moins croit l'être, aura acheté ou dans un lot ou chez un marchand de bric-à-brac ce grimoire auquel il n'aura attaché aucune importance. De deux choses l'une, il l'aura revendu ou on le lui aura volé. C'est ce qu'il s'agit de savoir. Ben nous allons donc nous rendre tout de suite chez lui, déclarait Chantecoq, en recollant la partie du feuillet qui dissimulait l'ex-libris révélateur. Des pas retentissaient dans le couloir. Chantecoq se hâta de déposer les mémoires de Ruggieri sur le bureau et la porte s'ouvrit devant M. Ferval qui d'un ton joyeux lança « Eh bien, vous l'avez lu !»« Oui, nous avons lu, » fit le détective qui, dès l'entrée du directeur, s'était composé une figure préoccupée. « Alors, qu'en penses-tu ? » ?»« Tout cela est bien troublant. » « Et vous, commandeur ?»« Moi, » zézaya le faux Cantarelli, « je suis de l'avis de M. Chantecoq. C'est bien troublant, excessivement troublant. »« Je suppose, mon cher, » reprenait M. Ferval en s'approchant du détective, « que maintenant tu ne doutes plus de la culpabilité de Jacques Bellegarde. »« répliquait évasivement le limier. « Oh ben, qu'est-ce qu'il te faut ? Je me demande à quel mobile a pu obéir ce journaliste. Tu tiens à le savoir? Pas autant que possible. Eh bien, je vais te le dire, car je ne t'ai pas encore tout raconté. Ferval s'enfuit à un coffre-fort placé derrière sa table de travail. Et après avoir fait fonctionner le secret, il en retira une liasse de lettres et en choisit une qu'il tendit à Chantecoq en disant « Voilà ce qu'on a trouvé chez lui. » Le détective s'empara de la lettre et lut tout haut. « Tu es riche et je suis sans fortune. Je ne puis pourtant pas commettre un crime. « Qu'est-ce cela? » fit Chantecoq en simulant un certain étonnement. Ferval répliquait « Une lettre de Bellegarde adressée à Simone Desroches, qui était son amie. Et où l'a-t-on trouvée? Ben chez Bellegarde, précisait le directeur, en reprenant le papier que lui tendait Chantecoq. Celui-ci, profitant d'un moment d'inattention de Ferval, lança un rapide et expressif coup d'œil au journaliste dont il devinait l'émotion. Ce coup d'œil signifiait clairement silence. Jacques comprit et, pour dissimuler son trouble, il s'approcha de la table et s'empara du grimoire qu'il se mit à feuilleter avec toute l'attention recueillie d'un parfait bibliophile. Tu dis que l'on a trouvé cette lettre chez Bellegarde? Reprenait Chantecoq. Parfaitement. Veux-tu me la relire? Volontiers. Le directeur de la police reprit en scandant bien chaque mot. Tu es riche et je suis sans fortune. Je ne puis cependant pas commettre un crime, point de suspension. Puis avec force il ajouta. Eh bien, ce crime, Bellegarde l'a commis. En es-tu sûr? Ripostait Chantecoq d'un ton incisif. Mais cette lettre achève de l'accabler. Alors, pourquoi n'a-t-il pas pris le soin de la détruire? Oh, sans doute était-il occupé à transporter en lieu sûr le trésor des Valois. Chantecoq s'écriait. Dans quel dessein, selon toi, Bellegarde, dont le passé était au-dessus de tout soupçon, dont la situation présente était déjà fort enviable et dont l'avenir s'annonçait comme des plus brillants, a-t-il cru devoir devenir tout à coup un aussi odieux criminel? Je vais te le dire, répliquait Ferval. Dès que Bellegarde a eu connaissance de l'existence du trésor des Valois, il n'a eu qu'un but, s'en emparer et s'enfuir à l'étranger. Eh bien, pour ne pas être gêné, qui sait même peut-être paralysé dans ses mouvements, il a rompu avec cette malheureuse jeune femme qui n'avait jamais été pour lui qu'un amusement et dont la dot, si brillante fut-elle, n'était rien en comparaison des millions qu'il savait pouvoir se procurer. Ferval se tut, persuadé qu'il avait cette fois désarmé son adversaire. Chantecoq, en effet, feignant une certaine indécision, reprenait « Ben, ton raisonnement se tient jusqu'à un certain point. En tout cas, tu me permettras de te faire observer que Belphégor a été joliment maladroit en laissant traîner chez lui ses lettres, ainsi que cette ferrure de coffre, ses écus à l'effigie d'Henri III et surtout ses mémoires de l'Ruggieri. » Clé du secret qu'il aurait dû d'autant plus garder pour lui que sa divulgation risquait fort de lancer la police sur ses traces. Bellegarde n'avait pas l'expérience du crime. Et son complice, il me semble que tu l'oublies un peu, n'en crois rien. Et tout en prenant un air quelque peu ironique, Ferval ajouta. Je suis peut-être beaucoup plus renseigné sur son compte que tu ne le penses, et selon moi, le fantôme du Louvre ne serait autre que le voleur du musée de Florence que tu recherches pour le compte du gouvernement italien. Et se tournant vers Cantarelli, qui feignait de s'absorber de plus en plus dans l'examen du grimoire, il scanda. « N'est-ce pas votre avis, mon cher commandeur ?»« Mais oui, puisque c'est le vôtre, » répliquait adroitement le reporter. « Tu vas voir, comme tout s'explique, tout s'enchaîne, » reprenait le directeur de la police judiciaire en s'adressant à Chandcock. « Jacques Bellegarde, que sa profession oblige à fréquenter des gens de toutes sortes, aura fait la connaissance de l'individu en question qui lui aura communiqué le manuscrit qu'il a dû dérober à l'étranger dans un musée, une bibliothèque ou chez un simple particulier. » Ce bandit lui aura offert de s'associer à lui pour s'emparer du trésor des Valois. Et Bellegarde aura accepté tout de suite. Bon, il se peut qu'il ait refusé d'abord, mais qui sait, si son complice, qui m'a tout l'air d'être un bandit de grande envergure, n'aura pas employé envers lui d'irrésistibles arguments, tels que, je sais pas, le chantage. Bellegarde peut avoir commis des actes délictueux qui sont restés ignorés de tous. Sauf du voleur italien, scanda Chandcock. Pourquoi pas? Ben, évidemment, si l'on voulait s'en donner la peine, on pourrait prouver que Louis XVI est mort à Sainte-Hélène et que Napoléon a été guillotiné en 93. Alors, s'écriait le haut fonctionnaire. « Tu persistes à croire que Bellegarde n'est pas coupable. Peux-tu parier qu'il est innocent ?»« Parier quoi ?» s'exclamait le directeur en haussant les épaules. « Un bon déjeuner auquel nous inviterons le commandant Cantarelli. »« Eh bien, soit, accepta Ferval. » Alors Chantecoq, tout en prenant un boucan de son veston et en le regardant bien dans les yeux, ajouta « Je parie également qu'avant 8 jours, je te livrerai les vrais coupables. »« Tu as perdu. J'ai gagné. » Après avoir serré la main du grand détective et du faux commandeur, il les reconduisit tous deux jusqu'à la porte de son cabinet. Quand ils eurent disparu, Ferval dirigea ses yeux vers les mémoires de Ruggieri, les ferrures, les écus et les lettres de Bellegarde qui étaient restées sur son bureau. « N'y a pas à en douter, toutes ces preuves sont accablantes. » Et il fit en soupirant « Le roi des détectives est en train de perdre sa couronne. » Chapitre 2. Monsieur Luchner. Lorsque Chantecoq et Jacques Bellegarde se retrouvèrent dans la rue, la première phrase que prononça le journaliste fut pour demander au détective si celui-ci était content de lui. « Très !» répliqua nettement le grand limier. « Vous avez admirablement joué votre rôle. Et ce n'était pas commode, surtout avec un gaillard tel que Ferval. Vous ne pouviez pas me décerner un compliment plus agréable. » Il n'y a qu'un moment où j'ai eu peur. Quand donc? Pas lorsque Serval a sorti vos lettres. Le fait est que, sans le regard que vous m'avez lancé, dont j'ai tout de suite compris la signification, je me demande si je serais resté maître de moi. Mais Chantecoq, elle a un taxi qui passait à vide. Maintenant, dit-il, filons vite chez le baron Papillon. J'ai idée que nous y apprendrons des choses intéressantes. Quelques instants après, l'auto de place qui véhiculait le limier et le journaliste s'arrêtait rue de Varennes devant un très bel hôtel du XVIIe siècle qui évoquait la grandeur solennelle de cette époque. Chantecoq fit fonctionner la sonnette dont la poignée de cuivre était placée à la droite d'un portail monumental orné d'un frontispice décoré d'un blason sculpté en relief. Au même instant, une petite auto débouchait dans la rue. C'était la voiturette du bossu. Celui-ci, près duquel se tenait l'homme à la salopette, aperçut le détective et le reporter, stoppa aussitôt à une trentaine de mètres de l'hôtel, devant lequel le détective et le reporter attendaient toujours qu'on leur ouvrit. « Ah ça !» murmura le bossu à l'oreille de son compagnon. « Qu'est-ce que Chante-Coq peut bien venir faire chez les papillons ?» Certain de n'avoir pas été reconnu, car Chante-Coq et le faux Cantarelli lui tournaient le dos, il fit aussitôt marche arrière et s'en fut se mettre à l'abri d'une énorme voiture de déménagement qui stationnait devant une maison voisine. La porte de l'hôtel s'ouvrit enfin, laissant apparaître la tête bourrue d'un concierge en grande livrée qui tout de suite dévisagea les visiteurs d'un air hautain et antipathique. « Vous désirez ?» interrogea-t-il d'un ton rogue. Chante-Coq poliment répliquait « Parler à monsieur le baron Papillon. »« Monsieur le baron est sorti !» répliquait sèchement le cerbère. Le détective insistait. « Vous ne savez pas à quelle heure il rentrera ?»«
Non. »«
Il s'agit d'une affaire urgente. »« Je n'y puis rien. »« Cependant, » avec importance et autorité, le concierge daignait expliquer. Vous n'aurez qu'à écrire à monsieur le baron Papillon pour lui demander une audience en lui exposant le but de votre visite. Comme un ministre, grognardait le limier. Parfaitement, comme un ministre, martela le concierge, fermé d'ailleurs à toute ironie. Et il referma la porte au nez de son interlocuteur. Le baron Papillon peut se vanter d'être bien gardé, constatait Bellegarde. Oh, ce n'est qu'un retard sans conséquence, affirmait Chante-Coq. Nous allons entrer tout de suite dans un bureau de poste où j'enverrai un pneu au baron. Je suis certain qu'il me répondra d'une façon favorable et immédiate. Et tous deux s'éloignèrent. Le bossu qui les guettait les vit disparaître à l'angle de la rue. Il attendit encore prudemment quelques instants. Puis remettant sa voiture en marche, il s'en fut s'arrêter devant l'hôtel et fit entendre deux coups de klaxon. Presque aussitôt, la porte d'entrée s'ouvrit à deux battants. Le concierge reparut. Il n'avait plus son air renfrogné et souriait même au bossu, qui, tout en restant à son volant, l'appela près de lui. L'homme en livrée s'approcha aussitôt, et soulevant sa casquette, il fit « Bonjour, monsieur Lichner, vous avez fait une bonne promenade ?»« Oui, très bonne, » répliquait le complice de Belphégor. Puis il interrogea aussitôt « Que désiraient ces gens qui viennent de partir ?» Le portier déclarait « Parlez à monsieur le baron pour une affaire urgente et grave. » Le bossu réfléchit un instant, puis il reprit « Monsieur le baron est-il là ?»«
Non, monsieur Lichner, il est sorti avec madame la baronne, il ne rentrera que très tard dans la soirée. »«
Bien. » Et se retournant vers l'homme à la salopette, le bossu lui dit à haute voix « « Bon, ben, je n'ai plus besoin de vous. » Se penchant à son oreille, il murmura « Il est grand temps d'agir. Allez, à ce soir, 11 heures, où vous savez. »
L'homme à la salopette fit un signe d'acquiescement et sauta à terre. Le bossu remit sa voiture en marche. Après une manœuvre des plus correctes, il pénétra dans la cour de l'hôtel et s'en fut ranger sa voiture dans le garage qui remplaçait les écuries d'antan. Puis, gravissant le large perron, il pénétra dans un vestibule, gravit un escalier aux marches de pierre et à la rampe de fer forgé qui donnait accès au premier étage, traversa une antichambre et pénétra dans un cabinet de travail moins vaste que celui du château de Courteuil, mais tout rempli de meubles et de bibelots qui en faisaient un véritable musée. Matthias Lüchner d'origine indécise et de pays incertain, était acheteur pour le compte d'un grand marchand d'antiquités parisien, lorsqu'il fit chez son patron la rencontre de Monsieur Papillon. Par sa vive intelligence, son apparente honnêteté et sa connaissance remarquable du bibelot, il ne tarda pas à attirer sur lui l'attention du baron, dont, à force de flagornerie et de bassesse, il acheva de faire la conquête. Papillon, qui n'était qu'un négociant enrichi dans la vente du cacao et savait à peine distinguer le Louis XV du Louis XVI, lui offrit de devenir, à des appointements mieux qu'honorables, son conseiller artistique. Et depuis un an que le bossu occupait ce poste, il avait vu grandir sa faveur à un tel point que le baron ne faisait plus aucune acquisition sans le consulter, ce qui permettait au rusé coquin de toucher l'importante commission dont son patron faisait naturellement tous les frais. Comment ce personnage, dont le passé devait être singulièrement louche, était-il devenu le collaborateur du mystérieux Belphégor ? Quel lien assez puissant, en dehors d'un intérêt manifeste, l'unissait au fantôme du Louvre pour qu'il lui témoignât un dévouement et une obéissance de tous les instants ? Laissons à Chantecoq le soin de débrouiller cette énigme, et contentons-nous, dès à présent, de demeurer en tête à tête avec ce redoutable bandit. Après avoir déposé son chapeau de feutre sur un meuble, il s'installa devant une délicieuse table en bois de rose, au bronze délicatement ciselé, et il ouvrit un dossier qui contenait un certain nombre. Büchner les lut avec attention, jetant les unes au panier, conservant les autres, auquel il se mit à répondre avec la ponctualité d'un bureaucrate. Cela le mena jusqu'à 7 heures du soir. Il se disposait à se rendre dans le petit appartement particulier que le baron Papillon lui avait fait aménager dans l'aile gauche de l'hôtel, lorsqu'on frappa à sa porte. « Entrez !» fit-il de sa voix de fausset. C'était un valet de chambre qui, un plateau à la main, s'approchait de lui en disant « La correspondance de monsieur le baron ». Le bossu prit les lettres et les rejeta l'une après l'autre sur la table. Seul un pneumatique retint son attention. Après quelques secondes d'hésitation, il se décida à l'ouvrir. Et voici ce qu'il lut. « Monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous demander un entretien. Il s'agit d'une affaire très grave et qui vous intéresse particulièrement. Veuillez agréer, monsieur le baron, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Chantecoq, détective privé, 5 allée de Verzy, Les Ternes, téléphone W0345. » Luchner eut un ricanement sinistre. Puis il déchira le pneumatique en tout petits morceaux qu'il glissa dans sa poche. Et tout en se frottant les mains, il murmura « Et maintenant, monsieur Chantecoq, à nous deux !» Mais tout à coup, il songea « Et si, ne recevant pas de réponse, ce diable d'homme s'avisait de téléphoner à ce crétin de baron ?» En effet, pour qu'il assiste à ce point, il faut qu'il ait quelque chose de très important à lui demander. Et c'est probablement de moi qu'il s'agit. Diable, diable, la prudence la plus élémentaire me commande donc d'empêcher toute rencontre entre Papillon et Chantecoq. Parbleu, c'est bien simple. Il n'y a qu'à interrompre toute communication téléphonique. Cela décidé, le bossu se rendit tranquillement dans la salle à manger, où l'attendait un excellent dîner auquel il fit largement honneur. Puis il descendit à l'office où se trouvait le standard. 5 minutes après, il en ressortait, sa besogne accomplie. Il se rendit au garage, dont il ouvrit la porte à 2 battants, grimpa sur le siège de la voiturette, mit en marche son moteur et sortit dans la cour. Attiré par le bruit, le concierge apparut sur le seuil de la loge. « Vous allez en course, monsieur Lichner ?»« Non, répondit le bossu, je vais passer la soirée chez les amis. » Le cerbère ouvrit le portail, et le complice de Belphégor, appuyant sur sa pédale, gagna la rue de Varennes. À une allure modérée, il atteignit le boulevard Saint-Germain et obliqua à droite dans le boulevard Saint-Michel, traversa la place de l'Observatoire, monta jusqu'au Lion de Belfort, longea l'avenue d'Orléans dans toute sa longueur et, un peu avant d'atteindre la barrière, s'engagea dans la rue Bernier, puis dans une impasse faiblement éclairée et bordée de maisons, ou plutôt de masures, qui profilaient à la clarté de la lune leur silhouette lézardée. Stoppant devant une bicoque uniquement formée d'un rez-de-chaussée que surmontait un toit auquel il manquait un certain nombre d'ardoises, il arrêta son moteur, boucla le flic adapté au volant, se dirigea vers la maisonnette et, tirant de sa poche une assez grosse clé, il l'introduisit dans la serrure d'une porte pratiquée au milieu de la masure, entre deux fenêtres qui, garnies de barreaux de fer rouillés, ne laissaient filtrer aucune lumière. Et, s'introduisant à l'intérieur, il referma derrière lui la porte. Puis ce fut un bruit de verrou que l'on tire, de chaîne que l'on tend. Qu'allait donc faire le bossu en ce lieu sinistre ? Chapitre 3. Pauvre Jacques. À la villa de Chantecoq, tandis que Gautret continuait avec ses deux Danois à monter une garde vigilante autour de la maison, le détective, Colette et Jacques, qui avaient gardé son travestissement de Cantarelli, achevaient de dîner sous la véranda lorsque Marie-Jeanne apparut. « Ces messieurs et dames sont-ils satisfaits ?» demanda-t-elle d'un air épanoui qui prouvait qu'elle s'attendait à le légitime compliment. « Votre dîner était parfait, » répliquait Colette. « Moi, » déclarait Chantecoq, « j'ai repris 3 fois du canard au Porto. » « Et ma croûte aux fruits, délicieuse !» affirmait Bellegarde. « Je suis bien contente, » affirmait l'excellente Madame Gautret. Et après avoir déposé près du détective quelques feuilles du soir, elle se retira. Chantecoq s'empara d'un journal, l'ouvrit et le déplia. Bellegarde et Colette allaient en prendre chacun un autre. Mais tout à coup, le grand limier lançait en riant. Oh, « Pauvre Ménardier, quel entêté ! Décidément, il veut se couvrir de ridicule !» Il tendit la feuille à Bellegarde et tout en lui indiquant du doigt un passage, il ajouta « Si vous voulez vous régaler, dégustez cela. » Jacques s'empara du journal et lut l'entrefilet suivant. L'inspecteur Ménardier a découvert l'identité de l'un des complices de l'assassin du Louvre qui ne serait autre qu'un jeune journaliste connu. L'arrestation du coupable serait imminente. « Vous ne trouvez pas qu'il va fort, ce cher inspecteur ?» lançait ironiquement Chantecoq. Jacques ne lui répondit pas. Il continuait sa lecture. Soudain, ses traits se contractèrent sous l'emprise d'une violente émotion intérieure. Le grand détective, surpris, reprit. « J'espère que cela ne va pas vous empêcher de dormir. » « Vous ne supposez pas que Ménardier vous a repéré et qu'il va venir vous arrêter chez moi ?» Toujours sans dire un mot, Jacques déposa le journal sur la table. Son visage trahissait plus que de la préoccupation, de la douleur. Tandis que Colette considérait le journaliste avec anxiété, Chantecoq demandait « Qu'avez-vous, cher ami ?» « Un malaise subi, » fit Bellegarde en portant la main à son front. « Je vous le répète, » insistait Chantecoq, « vous n'avez rien à craindre de Ménardier. Si j'avais le moindre doute à ce sujet, j'aurais déjà pris toutes les précautions nécessaires. Ce n'est pas cela, déclarait le journaliste. Je me sens pas très bien, voilà tout. Je vous demande la permission de me retirer. Colette chercha son regard et ne le rencontra pas. Jacques se leva, salua son hôte et rentra dans la maison d'un pas mal assuré. « Mon Dieu !» fit Colette en pâlissant. « Qu'as-tu ? » interrogeait son père. La jeune fille murmura « Mais si Belphégor l'avait empoisonné !»« C'est impossible !» déclarait le roi des détectives d'un ton incisif. « Cependant, mais réfléchis un peu. Je n'ai pas quitté Bellegarde depuis ce matin. Je suis sûr qu'il n'a rien absorbé au dehors et je pense que tu ne vas pas accuser cette brave Marie-Jeanne d'être la complice de Belphégor. Oh non, mon père, mais je me demande si ce misérable n'aurait pas, je sais pas, à l'insu de cette brave femme, réussi à glisser un toxique dans nos aliments ou dans notre boisson. Ben, en ce cas, rétorquait le grand limier, nous serions empoisonnés tous les trois. Colette n'insista pas. Machinalement, elle prit le journal que Jacques avait laissé et en commença la lecture. Tout à coup, elle tressaillit et, comme frappée au cœur, elle eut un faible cri. Mais il était si douloureux que son père lui arracha le journal et chercha à découvrir ce qui avait bien pu causer à son enfant un si profond chagrin. Tout de suite, il fut fixé. À quelques lignes au-dessous de l'entrefilet qui annonçait l'imminente arrestation de Jacques, il découvrait ceci. Mademoiselle Simone Desroches, l'auteur d'un poème intitulé « Beau rêve », a été frappée la nuit dernière d'un mal subit qui ne laisse malheureusement que peu d'espoir de la sauver. Chantecoq dirigea ses yeux vers sa fille. Colette, qui avait beaucoup de peine à retenir ses larmes, s'écria « Oh, je comprends. Il l'aime encore. » Affectueusement, Chantecoq attira sa fille contre lui. La nuit était venue et les rumeurs du dehors n'arrivaient plus que très atténuées jusqu'à la villa du détective. Soudain, celui-ci dressa l'oreille. Il lui semblait avoir entendu, de l'autre côté de la maison, dans la partie du jardin qui dornait sur l'allée de Verzy, un bruit de pas faisant grincer les petits cailloux de l'allée. Presque en même temps, des aboiements de chiens s'élevaient. Chantecoq s'écria « Oh, c'est Gautret, sans doute, qui se promène avec ses Danois !» « Mon père, » fit Colette en se dressant, « c'est lui qui s'en va la retrouver. » Chantecoq se précipita, suivi par Colette, au comble de l'angoisse. Et rejoignant Gautret, il lui demanda « Tu as vu, monsieur Bellegarde ?»«
Oui, monsieur, à l'instant même. »«
Où est-il ?»
Il vient de partir, ben oh, même qu'il ne doit pas être loin.
Le détective courut vers la porte d'entrée, l'ouvrit, se pencha au dehors. Bellegarde avait déjà disparu. Revenant vers Gautret, le grand limier lui demanda « Est-il toujours camouflé ?»«
Non, répliqua l'ancien gardien du Louvre, il avait sa tête et ses habits ordinaires.
« Mais tu es stupide !» grondait le détective. « Tu n'aurais pas dû le laisser partir !»«
Je ne savais pas, monsieur. »«
Oui, c'est juste, j'aurais dû te donner la consigne. » Colette, affolée, s'exclamait.
« Il va se faire arrêter !»
Mais sur un ton d'énergique assurance, Chantecoq lui répliquait. « Rassure-toi, je veille. » À bout de courage, la jeune fille laissa tomber sa tête sur l'épaule de son père en murmurant « Mon pauvre Jacques !» La conscience, bouleversée beaucoup plus que le cœur par la nouvelle qu'il venait de lire dans le journal, Jacques Bellegarde, sautant dans un taxi, s'était fait conduire à Auteuil. Sans remarquer un individu qui se tenait caché aux alentours de l'hôtel de Mademoiselle Desroches et qui n'était autre que l'homme à la salopette, le journaliste sonna d'une main hésitante à la porte de cette maison où il croyait si bien ne plus jamais revenir. La porte s'ouvrit. « Juliette !» s'écria le journaliste en reconnaissant la femme de chambre, dont le visage consterné et les yeux rougis de larmes achevaient de l'affoler. « Alors ?» murmura-t-il d'une voix presque imperceptible. « Tout est fini !» déclara Juliette en étouffant un sanglot. « Elle est morte ?» bégaya le journaliste. « Oui, monsieur. » Bellegarde, comme un fou, pénétra dans la maison. La femme de chambre lui ouvrit la porte du salon. Il s'écroula sur un siège et demeura accablé, brisé par la conviction qu'il était la cause de cette catastrophe, torturé par un remords tel que peuvent en avoir les âmes aussi sensibles et aussi loyales que la sienne. De plus en plus convaincu qu'il était l'assassin moral de cette femme dont il avait méprisé l'amour, persuadé qu'incapable de supporter une rupture qu'elle avait faim d'accepter, soit par fierté, soit par désespoir, Simone avait volontairement mis fin à ses jours, Jacques demeurait effondré sur son siège, incapable de réagir, de raisonner, de se chercher une cause, une excuse, lorsque Mademoiselle Bergen apparut. Sa figure exprimait un profond chagrin. Le reporter se leva et s'enfuit vers elle. « C'est donc vrai ?» fit Bellegarde, les yeux égarés, les lèvres tremblantes. « Oui, notre pauvre Simone est morte dans mes bras cet après-midi. Mais c'est horrible !»« Horrible, en effet !» Elsa Bergen se tut. Dans ce silence, le reporter crut deviner toutes les accusations, tous les reproches, et il courba le front. Mais une question qu'il n'osait poser le harcelait à un tel point qu'incapable de résister à l'impulsion intérieure qui l'épouvantait, il bégaya. « Elle s'est suicidée ?» « Non !» répliqua la Scandinave. « Ainsi que je vous l'ai dit l'autre matin, lorsque je suis venu vous supplier de revenir près d'elle, Simone avait le cœur malade, plus malade même que nous ne pouvions le supposer. Alors c'est moi, je ne veux pas vous accabler, monsieur Bellegarde, mais vous lui avez fait bien du mal. Si vous saviez combien je le regrette... « Trop tard, hélas. Vous pouvez tout me dire, car j'ai tout mérité. » Mademoiselle Bergen regarda Jacques. Il était si sincèrement douloureux, si abattu, si déchiré, qu'elle en parut quelque peu apitoyée, et d'une voix moins sèche, d'un accent moins hostile, elle reprit. « Je dois, à la vérité, de vous apprendre que vous n'êtes pas le seul coupable. » Bellegarde releva la tête. La demoiselle de compagnie poursuivait. « Certes, votre attitude avait jeté notre pauvre Simone dans un état des plus inquiétants, mais somme toute, elle avait résisté à la crise terrible que votre départ avait provoquée en elle. Et j'avais lieu d'espérer qu'elle en sortirait victorieuse. » Lorsqu'un incident imprévu a achevé notre cher blessé. Un incident imprévu, répétait Jacques, qui, dans le désarroi de son esprit, ne comprenait pas encore. La Scandinave reprenait. Peut-être avez-vous entendu dire que le fantôme du Louvre s'était introduit dans cette maison et y avait dérobé vos lettres.
Et Sibone en a éprouvé une telle frayeur qu'une nouvelle crise s'est déclarée. Et cette crise, après la si cruelle émotion qu'elle venait de traverser, ne pouvait que lui être fatale. Alors quand elle s'est sentie près de la fin, elle a prononcé votre nom. Je lui ai demandé, dois-je l'envoyer chercher? Elle m'a répondu, non, car il ne vous croirait pas et il refuserait de venir. Et elle a ajouté d'une voix que je n'oublierai jamais, j'aime mieux m'en aller avec la consolation de me dire qu'il ne peut plus m'en vouloir, puisque je me suis sacrifié. Et me prenant la main, ce fut son dernier geste, en même temps que ses dernières paroles, elle a murmuré, « Vous lui direz que je lui pardonne. » « Pauvre Sibone, » fit Jacques atterré. La demoiselle de compagnie hocha tristement la tête, puis elle fit, « Je vais vous faire lire ses dernières volontés. » Et elle emmena le reporter dans le boudoir. Un grand frisson secoua le pauvre garçon. C'était là qu'il l'avait vu pour la dernière fois, qu'il avait implacablement, victorieusement résisté à ses larmes et à ses prières, et lui avait porté le coup fatal dont on ne devait pas se relever. Elsa Bergen s'approcha du secrétaire, l'ouvrit et prit sur l'une des tablettes un papier qu'elle tendit à Jacques. Celui-ci s'en empara et lut ces quelques lignes tracées d'une main défaillante. « Lorsque je ne serai plus, je veux que l'on m'emporte dans mon atelier et que l'on m'étende sur le grand divan noir parmi les fleurs que j'aimais. » Après un instant d'incertitude, le journaliste fit timidement « Je voudrais la voir. » La Scandinave demeura un instant impassible. Bellegarde se demandait si elle allait accéder à sa requête. Il se préparait à insister, car une force irrésistible lui ordonnait de se rendre au chevet de la morte et de s'y agenouiller, non pour implorer de son âme envolée et sans doute déjà lointaine un pardon qu'elle lui avait déjà accordé, mais pour se recueillir et pour enfin donner libre cours aux sanglots qui l'étouffaient. « Mademoiselle, murmura-t-il d'un air suppliant, « venez, » dit simplement la demoiselle de compagnie. Tous deux quittèrent le boudoir et, gagnant le jardin, se dirigèrent vers l'atelier dont on apercevait, à travers les frondaisons des grands arbres, les vitrages éclairés par une discrète lumière. Ils atteignirent la porte, qu'Elsa Bergen ouvrit avec ce respect toujours un peu craintif qu'inspire la mort. Ils s'arrêtèrent sur le seuil. Bellegarde se découvrit et aperçut au milieu de la pièce, transformée en chapelle ardente, le grand divan noir sur lequel reposait Sibone, à demi enseveli sous les roses. Jacques s'avança lentement vers Sibone, dont la mort n'avait pas altéré la beauté. C'était elle encore, telle qu'il l'avait connue, mais les yeux fermés, la bouche close et toute pâle de la blancheur ivoirine d'un cierge. Arrivé près du divan, les yeux fixés sur celle qui, peu de temps auparavant, semblait respirer la vie avec tant de délices, il s'absorba dans sa méditation. Puis, insensiblement, il se laissa glisser à genoux. Discrètement, Mademoiselle Bergen se retira. En traversant le jardin, elle aperçut le valet de chambre qui accourait vers elle. « Mademoiselle, » annonçait-il d'un air agité, « la police est à la maison. »« La police ?» répéta la Scandinave. « Oui, l'inspecteur Bénardier, celui précisément qui est chargé d'arrêter le fantôme du Louvre. Il est accompagné de deux agents en civil. Vous a-t-il dit ce qu'il voulait ?
Non, mademoiselle, il a simplement demandé à vous parler tout de suite. Je l'ai fait entrer au salon.
Vous avez bien fait. La demoiselle de compagnie s'en fut rejoindre Ménardier, qui, après l'avoir aussitôt salué, attaqua. Nous avons la preuve que Jacques Bellegarde est l'un des auteurs, sinon l'auteur principal de l'assassinat du gardien en chef Sabara et du vol d'un trésor caché au Louvre.
« Est-ce possible ?» s'écria Elsa Bergen,
avec une expression de profond saisissement. « Ce n'est, hélas, que trop vrai, » affirmait Ménardier. Et avec force, il poursuivit. « Nous avons été prévenus que Jacques Bellegarde se cachait dans cet hôtel. » Douloureusement, la Scandinave déclarait.
« Monsieur, il y a une morte ici, et celui que vous cherchez est en ce moment auprès d'elle. »
Cette réponse parut impressionner l'inspecteur, et se retournant vers ses agents qui s'effaçaient dans un coin de la pièce, il leur parla à voix basse. Dans l'atelier, Jacques était toujours agenouillé auprès du divan noir. Absorbé dans la plus cruelle des méditations, il courbait légèrement la tête. Lorsqu'une main se posa sur son épaule, il sursauta, se retourna. Chantecoq était devant lui. Sans prêter la moindre attention à la stupeur que manifestait le jeune journaliste, le grand détective lui disait d'un ton bref : La police est dans la maison, suivez-moi. Jacques dirigea un suprême regard vers la dépouille mortelle de Simone, mais Chantecoq, l'entraînant au dehors, sortit avec lui de l'atelier et ils firent quelques pas dans la nuit. À ce moment, ils aperçurent, éclairés par la lumière du grand salon, Ménardier et les deux agents qui, guidés par la demoiselle de compagnie, franchissaient le seuil de la porte-fenêtre accédant directement au jardin. Ils n'eurent que le temps de s'enfoncer dans un bosquet. Tandis que les policiers, toujours guidés par la Scandinave, s'avançaient vers l'atelier, Chantecoq et Bellegarde, qui marchaient à pas de loup, se glissaient jusqu'à la petite porte qui, au cours de sa première enquête chez Simone Desroches, avait déjà attiré l'attention du grand limier. Cette porte était légèrement entrebâillée. Le détective poussa Jacques au dehors et, tout en lui désignant une auto qui stationnait à quelques mètres de là, au milieu de la rue obscure, il lui dit « Montez vite dans cette voiture, je me charge du reste. » Bellegarde s'avança vers l'auto près de laquelle Gautret attendait. Colette était assise sur le siège, les mains sur le volant, le pied sur la pédale, impatiente de partir. Jacques prit place dans le véhicule. Gautret referma la portière et s'installa près de Colette, qui démarra aussitôt. Chantecoq eut un soupir de soulagement, puis il rentra dans le jardin, regagna le bosquet et, à travers les feuillages qu'il avait légèrement écartés, il aperçut Ménardier et ses deux hommes, qui, arrêtés devant l'atelier, hésitaient visiblement à y pénétrer. Tout à coup, l'inspecteur appela d'un geste brusque Elsa Bergen, qui se tenait à une certaine distance. La demoiselle de compagnie s'approcha de lui. Ménardier lui adressa quelques mots, sans doute lui demandait-il de pénétrer dans l'atelier, car mademoiselle Bergen se dirigea vers la porte qu'elle ouvrit toute grande. Une exclamation de surprise lui échappa, et de la main elle invita les policiers à s'approcher. Ménardier proféra un cri de colère. Dans l'atelier, il n'y avait plus que la morte, inerte, pâle et glacée sur son lit de rose, qui tachait le pourpre le velours du divan noir.
se retournant vers la Scandinave qui ne semblait pas moins stupéfaite que lui, Ménardier scanda. Si vous m'avez menti, Bellegarde est tout de même perdu. Deux hommes placés devant la porte de l'hôtel le cueilleront au passage.
Mais je vous jure, monsieur, que je n'y comprends rien,
protestait Sabergan avec une sincérité évidente. Ménardier martelait. Oh, il serait être loin, nous allons fouiller le jardin. L'inspecteur et ses deux agents allaient commencer leurs recherches lorsque, sortant de l'ombre dans laquelle ils se dissimulaient, Chantecoq se dressa devant eux.
Chantecoq, reconnut Ménardier.
Le roi des détectives, tout en lui tendant la main, reprenait avec bonhomie.
Inutile, mon cher collègue, de vous donner tant de mal. Jacques Bellegarde vient de me filer entre les mains.
Ménardier serra les poings, mais, dominant la colère qui s'était emparée de lui, il se contenta de répliquer.
Je vous remercie, mon cher maître.